match. Le Ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatche, le Ravi en collaboration avec Radio Grenouille. Notre invité aujourd'hui est le député socialiste, maire de secteur et candidat à la mairie de Marseille, Patrick Menucci. Bonjour.
Bonjour.
Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons du scrutin à venir, en l'occurrence les élections municipales, votre candidature, quelles sont vos solutions, avec quelle équipe, on verra tout ça. Avant cela, nous allons rapidement revenir sur l'actualité politique et économique du moment, le pacte de responsabilité avec les entreprises, la réforme sur le cumul des mandats qui vient d'être votée. Mais avant tout, Patrick Menucci, une tradition dans cette émission qui est présentée par Rafi Amal et Michel Guéraud, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Chassez le Menucci, il revient au galop. S'il y a bien une qualité que vos adversaires, et ils sont nombreux et vindicatifs, vous reconnaissent, c'est votre capacité à rebondir. Un talent précieux, persifle les mêmes, vos adversaires, quand ils se conjuguent avec un don pour se fâcher avec vos meilleurs amis. Car le Menucci parle haut et fort. Directeur de campagne de Michel Vauzelle au régional, de Michel Rocard ou de Vincent Payon aux européennes, de Jean-Noël Guérini au municipal ou de Ségolène Royal à la présidentielle, votre grande gueule et votre pugnacité plaisent et font votre réputation. Mais lorsqu'il s'agit de défendre votre propre cause, le bilan est plus contrasté. Vous vous êtes fâché puis réconcilié avec Vauzelle, Royal a soutenu Samia Ghali lors de la primaire socialiste, Guérini, dont vous dénoncez le système, cache à peine le souhait de vous voir perdre les prochaines élections. Il a fallu vous y prendre à 3 reprises pour décrocher un mandat de député. En 2002, la Fédération socialiste a même désavoué votre candidature au profit des communistes. Élu conseiller municipal pour la première fois en 83 à 28 ans auprès de Defer, vous menez sans discontinuité l'opposition à Jean-Claude Gaudin. Sans discontinuité, mais bien que parfois privé de la présidence du groupe PS à l'issue de virils débats internes. Tour à tour gestionnaire d'un garage auto, propriétaire d'un restaurant de pâtes, après être passé par toutes les cases imposées du futur cadre socialiste, MJS, UNEF, MNEF, après avoir exercé la plupart des mandats locaux, après avoir longtemps mis vos talents au service des autres, vous voilà bel et bien tête d'affiche. Après être devenu maire de secteur en 2008, député en 2012, suite à une primaire très disputée, vous voilà le candidat socialiste pour les municipales à Marseille. Petit-fils d'immigrés de Toscane, diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence et de l'école de commerce de Marseille, le militant socialiste de toujours, vous êtes adhérent au PS depuis vos 14 ans, va pouvoir en découdre. Donc, vous voilà tête d'affiche, tous derrière, bon gré mal gré, et vous devant. Vous voilà donc, une fois de plus, en campagne, mais pour la campagne, votre campagne, un nouveau cap pour les Marseillais, un nouveau cap pour le Menucci.
Patrick Menucci, un commentaire à ce portrait-là, ce sera ravi.
Une erreur qui est généralement faite. En 1983, je n'ai pas été élu conseiller municipal. J'étais conseiller d'arrondissement et j'étais le deuxième adjoint au maire de Pascal Posado dans le 8e secteur de Marseille. Donc je ne siégeais pas au conseil municipal, j'y suis rentré en 1995.
Rectification.
Mais c'est pas la faute de Michel, c'est parce que c'est généralement ce qui est écrit, et je le dis systématiquement, mais ça revient toujours de la même façon.
Alors Patrick Menucci, quelques
c'est
questions...
C'est pas très grave, il faut bien le dire.
Quelques questions d'actualité. Au mois de mai dernier, François Hollande s'était dit socialiste, en tout cas, il s'était présenté comme ça, tout le monde le pensait. La semaine dernière, le chef de l'État s'est déclaré être social-démocrate. Patrick Menucci, c'est quoi cette évolution du chef de l'État? C'est un coming out, une clarification de sa ligne politique?
Non, mais je trouve que c'est assez amusant la façon dont vous présentez les choses. Notre courant politique, c'est la social-démocratie. Ça l'a toujours été. Et c'est inscrit dans notre position européenne. C'est inscrit aussi dans l'idée que le Parti Socialiste a depuis très longtemps, que ce n'est pas dans une économie administrée qu'on fait de la croissance. Donc aujourd'hui, simplement, peut-être le président de la République l'exprime publiquement. Moi, je me félicite qu'il le fasse. Parce que je pense qu'un des problèmes que nous avons, c'est la dichotomie qu'il existe entre les paroles, les actes, les paroles des congrès et les actes de la gestion. Et je crois que plus on sera clair, plus on se rapprochera de la réalité entre les deux, mieux ça sera. Donc le président de la République nous montre la voie. Il appartient maintenant au Parti Socialiste de faire ces aggiornamentos qui permettront à tous de comprendre notre orientation.
Ça veut dire quoi? Que c'est du social réalisme?
Non, ça veut dire
confronté à la réalité.
Vous êtes suffisamment informé pour savoir ce qu'est la social-démocratie. C'est l'idée de créer des richesses, de le faire avec aussi des entreprises privées, mais avec un tiers secteur, aussi avec l'administration, et de partager ces richesses, de permettre à tous d'atteindre un standard de vie qui est celui que nous recherchons, la culture, l'éducation et la santé. Voilà,
alors,
c'est
ça. Au sein du Parti Socialiste, hein, y compris au sein du Parti Socialiste, cette annonce a été un petit peu vécue de façon contrastée. 30 milliards d'euros par an de cotisations familiales que les entreprises ne paieront pas. Sans trop de conditions, il y en a quelques-unes, mais on comprend que l'essentiel, c'est d'essayer de faire le pari d'une relance économique. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Est-ce qu'on n'assiste pas là à un tournant comme en 83, tournant de rigueur, de réalisme? Est-ce que c'est pas un tournant?
Vous pourrez dire que c'est un tournant bon ou mauvais quand vous saurez comment on va financer les 30 milliards qui ne sont plus pris sur les entreprises pour financer les familles. À partir du moment où on considère que ça ne peut pas être que le travail, que l'emploi qui paye ce secteur, on va aussi taxer évidemment le capital. Et je crois que c'est ça la social-démocratie, c'est de s'adapter. Moi je trouve qu'il est tout à fait anormal que des gens qui font des fortunes financières, par exemple, ne soient pas taxés sur ces questions. Eh bien, j'espère que dans les débats que nous aurons à l'Assemblée nationale pour faire le nouveau système, ces choses-là seront prises en compte.
Mais selon vous, Patrick Mennucci, est-ce qu'il faut obliger le patronat à s'engager véritablement avec des chiffres? Gattaz avait parlé d'un million. Arnaud Montebourg, ministre socialiste, lui a exigé de 2 millions de créations d'emplois entre les deux.
Mais je crois qu'il faut prendre le patronat à son propre discours. On nous dit que c'est ce genre de taxe qui limite les embauches. Mais je crois qu'il faut donner à voir que ces taxes n'existent plus et s'engager à régler ces questions-là. En même temps, il ne faut pas non plus recréer une usine à gaz. Parce que elle se retournera contre nous. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin que ce pays consomme. Pour consommer, nous avons besoin que les Français aient des richesses dans leur portefeuille. Pour cela, il faut qu'ils travaillent. Il n'y a pas assez de travail. Les entreprises disent qu'elles veulent embaucher. Prenons-les au mot, qu'elles embauchent.
D'accord. Juste une phrase, et vous la retiendrez peut-être. Vous savez ce que disait Jean Jaurès? Patrick Mennucci.
Oui, il a dit beaucoup de choses, Jean Jaurès.
Aller vers l'idéal.
Aller vers l'idéal pour servir le réel, oui, bien sûr.
En comprenant le réel, c'est aussi une sorte de définition de la social-démocratie.
Mais je crois que Jean Jaurès est le père de la social-démocratie, contrairement à Gilles Gast. Oui.
Si on vous dit que vous êtes aujourd'hui, en 2014, recentré, vous avez commencé à la gauche du PS, auprès de Julien Drey, à gauche socialiste, est-ce que vous, vous-même, en regardant un petit peu en arrière, au moment où vous candidatez pour la mairie de Marseille, vous sentez plus au centre de l'échiquier, en tout cas au niveau du Parti Socialiste? Est-ce qu'à une époque, vous auriez peut-être fait des bons face à ce type d'annonce?
Les périodes ne sont pas les mêmes, les expériences ne sont pas les mêmes. Je considère que je n'ai jamais changé, j'ai toujours été du côté de ceux qui en avaient le plus besoin. Et c'est ce que j'exprime aussi dans la campagne de Marseille, quand j'appelle à la création de 50 000 emplois et que je dis comment une municipalité peut aider les entrepreneurs à créer de l'activité. C'est pourquoi que je dis ça, c'est pas pour faire plaisir aux entreprises, en même temps j'ai pas besoin de leur faire plaisir ou pas, c'est pour dire aux entreprises vous serez bien reçus à Marseille. Créer des emplois, on va vous trouver les terrains. Si vous créez beaucoup d'emplois, on peut discuter des taxes. Voilà, des choses qui se font dans toutes les villes. Vous savez, on est dans une économie où il n'y a pas de croissance. Donc il y a une concurrence entre les territoires. Et il faut que nous prenions notre place dans cette concurrence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune place dans cette concurrence. Et c'est ça qui nous doit mettre
en avant. On reparlera tout à l'heure de l'attractivité de ce territoire marseillais et de ce que vous comptez apporter pour améliorer les choses. Alors, autre réforme attendue, celle-là, c'est la réforme interdisant le cumul des mandats. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est à partir de 2017. Un parlementaire ne pourra plus exercer une fonction exécutive locale. Les sénateurs sont opposés. Les députés, eux, sont plutôt pour. Cour, c'est un élément de rénovation de la vie politique, Patrick Mélenchon ?
Écoutez, je trouve qu'on met beaucoup de temps pour appliquer tout cela. Ça fait très longtemps que je me suis exprimé sur ce sujet, et vous parliez de mon expérience tout à l'heure. Je peux dire que l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de conduire plusieurs mandats de front. Alors, maire de secteur, c'est une chose, mais demain, maire de Marseille, je ne vois pas très bien comment on peut être à l'Assemblée nationale le mardi matin pour les premières réunions de groupe jusqu'au jeudi après-midi. C'est complètement impossible. Ou alors, il faut être Superman. Alors, peut-être que d'ailleurs, on a Superman à la tête de la ville, mais en fait, c'est pas ce qu'on voit quand on promène dans la rue. Voilà, moi, je crois que c'est une bonne chose, c'est normal de le faire, et il faut qu'on s'y plie tous les uns et les autres.
Le front de refus de la part du Sénat, vous le comprenez ?
Mais je le comprends par l'égoïsme, oui. Je comprends non, que
en, en même temps, certains disent que le débat est enrichi par la présence d'élus locaux, en citant quelqu'un que vous allez certainement nous citer tout à l'heure, le maire de Lyon, qui part de son expérience, a quand même fait évoluer la loi sur les métropoles, etc.
Non, je n'ai pas un accord, surtout avec Gérard Collomb. Je le prends comme modèle, notamment la question du développement économique. Mais écoutez, très honnêtement, d'abord, vous venez de dire une chose qui, excusez-moi, n'est pas la réalité. Enfin, vous traduisez ce qu'on dit. Quand on dit il n'y aura pas de mandats locaux, ce n'est pas vrai. Nul n'est interdit d'être député, conseiller municipal de Marseille, ou conseiller régional, ou conseiller général. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de diriger en même temps une collectivité, et ça on peut le comprendre, mais en même temps le député qui voudra rester conseiller municipal pourra le faire, et ça sera tout à fait bien qu'il le soit.
Quand la loi en 2017 s'appliquera, vous ne pourrez pas faire ce que vous pratiquez vous-même à votre échelle aujourd'hui.
Oui, mais moi je...
Est-ce que vous estimez que c'est pas possible d'être à la fois député et maire de secteur, par exemple, parce que ce serait mieux que ça soit pas le cas?
Je dis pas que c'est impossible, mais maire de secteur n'est pas une fonction exécutive, il faut que être très sérieux. Et je le dis, maire de Marseille, ça ne me paraît pas possible. Et j'ai indiqué que, personnellement, je devancerai la loi. Et dès que les recours éventuels, s'il y en a, sont terminés au tribunal administratif ou au Conseil d'État sur mon élection de maire ou de l'un de mes colistiers dans les listes, je démissionnerai de mon poste de député des Bouches-du-Rhône.
Pour en finir avec cette histoire de Sénat, monsieur Rebsamen, socialiste, président du groupe socialiste au Sénat, qui se pose clairement la question de savoir ce que va devenir le Sénat, de son existence.
Franchement, moi je me la pose aussi. Hein.
Voilà.
Et si on pouvait...
Est-ce que vous êtes pour... suppression de,
oui,
de cette assemblée.
Je suis pour l'élection du Sénat. Je suis pour le bicamérisme, donc je ne suis pas pour la suppression du Sénat. Mais je pense que le Sénat pourrait être élu au suffrage universel.
Ça va faire quoi, Patrick? Ça va faire une sous-assemblée nationale.
Mais alors, il y a une autre solution qui est utilisée par les Allemands. Elle peut être la représentation à ce moment-là des territoires, mais les choses sont formelles. Ça fait partie.
C'est déjà le cas. Le territoire, c'est le Sénat. Le peuple, c'est l'Assemblée nationale.
Oui, non, c'est pas exactement comme ça. En Allemagne, ça ne se passe pas de cette façon. C'est les Länder qui vont décider eux-mêmes qui sont leurs représentants. C'est une petite façon différente quand même. Honnêtement, le Sénat est quand même quelque chose d'un peu archaïque. Le voit pas beaucoup son utilité, si ce n'est sur les libertés publiques, parce qu'il faut être attentif quand même à cette question. C'est toujours mieux d'avoir deux avis quand on prend des lois importantes. Mais honnêtement, il faut qu'on rénove tout ça, et les choses devront se faire dans les années qui viennent.
Monsieur Villani, par exemple, dit que si jamais cette réforme passe, de non-cumul des mandats, vont avoir des députés qui vont passer leur temps à embêter le gouvernement, à produire une multitude de lois et de textes.
Vous avez l'impression qu'en Allemagne, les députés passent leur temps à embêter le gouvernement.
Donc il faudra réduire le nombre de députés, 500, c'est peut-être beaucoup aujourd'hui, non ?
Moi, je suis favorable à la réduction du nombre de députés d'une centaine, effectivement, pour redéployer les moyens. Parce qu'il faut aussi dire la vérité, hein, le député a très peu de moyens. C'est aussi pourquoi les gens cumulent. C'est vrai que j'ai entendu une députée un jour dire, vous comprenez, passer 20 ans de ma vie, par hypothèse, si on est renouvelé dans un bureau de 10 mètres carrés, c'est un peu pénible. C'est vrai qu'on dort dans son bureau, c'est vrai qu'il n'y a pas des conditions de travail extraordinaires, mais vous savez, dans une société quand même où il y a beaucoup de difficultés chez nos concitoyens, moi je n'ai pas l'habitude de me plaindre et je prends les choses telles qu'elles sont.
Mais il n'y a pas non plus à se plaindre, plus de 6 000 euros par mois, il y a des compensations.
Là vous vous trompez, c'est pas du tout 6 000 euros par 5
mois. 5 000 et quels?
Oui, c'est 5 300.
Plus les notes de frais,
mais etc. Les notes de frais de quoi?
Quoi?
Non, je m'excuse, mais
quelle enveloppe pour payer les...
C'est autre chose, vous avez une enveloppe pour payer le personnel, mais ça c'est le personnel qui, quand Radio Grenouille ou leur avis paye ses salariés, c'est pas M. Guéraud qui prend une partie de leur argent.
On ne va pas détailler les avantages, il y a une bonne retraite aussi quand même au niveau des députés.
Ça c'est vrai, et je vais vous dire une chose, ça c'est vrai, et c'est vrai que ce n'est pas normal que par exemple le maire de Marseille, par hypothèse, quelqu'un qui va travailler 6 jours par semaine ne puisse pas avoir une retraite correcte. Ça, c'est vrai que c'est un problème.
À noter également que les assistants parlementaires ne sont pas payés de manière exponentielle, ne sont pas très très bien payés. Non,
ça dépend du nombre d'assistants parlementaires qu'un parlementaire a.
Alors, premier grand rendez-vous électoral de cette année 2014, on est quasiment à 2 mois du premier tour des municipales, Patrick Menucci. Au niveau national, d'abord, est-ce que vous craignez que la gauche revive la même chose qu'en 1983, où elle avait subi quand même une petite bérésina avec une trentaine de grosses villes perdues ?
Je pense que la situation n'est pas la même qu'en 1983, mais moi, j'ai une particularité, peut-être dans les hommes politiques.
La situation économique est à peu près la même,
Patrick Menucci. Que je ne suis pas Madame Soleil. Moi, je mène ma bataille à Marseille pour que Marseille change son destin et est un maire socialiste. Et je vous dis une chose que vous comprendrez, c'est que je suis très concentré sur la situation marseillaise et un peu moins sur la situation nationale.
Alors, en face de vous, par contre, Jean-Claude Gaudin, dans ses éléments de langage, et on est en campagne, donc il y a des éléments de langage, chaque fois qu'il parle de vous, il dit « mon concurrent et représentant du gouvernement ». Donc.
J'ai dit déjà sur une radio concurrente à la vôtre que je trouvais que la façon dont Jean-Claude Gaudin parlait de moi était méprisante.
Bon là, c'est méprisant c'est pour une... vous de non, vous désigner comme représentant. Non, je sais qu'il y a d'autres adjectifs.
Ce qui est méprisant chez cet homme, c'est de ne jamais citer mon nom. Il a décidé, c'est son problème. Moi, je l'appelle Monsieur Gaudin, et très honnêtement, être maire de Marseille avec ce qu'il a fait depuis 19 ans, c'est pas très glorieux, donc j'ai pas besoin de mettre d'autres qualificatifs. Quand on dit Monsieur Gaudin à Marseille, on pense à beaucoup de choses qui ne marchent pas, au non-développement économique de cette ville, à beaucoup de clientélisme, à des scandales comme ceux de la Sodexo, et son nom suffit à rappeler à tous quel est son bilan.
D'accord, on y vient, mais quand même sur la question, est-ce que le fait d'être membre de la majorité de ce gouvernement, dans le scrutin qui s'annonce, va être difficile à porter ?
Les sondages
ne sont pas très bons pour François Hollande, il y a une logique d'élection intermédiaire. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce qu'il va falloir être meilleur, porter ce fardeau un petit peu de il faut être solidaire.
En tout cas, moi j'ai décidé, vous le savez, quoi, moi je ne renie pas de là où je viens, chacun sait d'où je parle. Quelle est mon histoire politique, et je suis socialiste, et quelle que soit la situation de l'opinion dans le pays, je ne change pas, moi, d'opinion. Donc c'est clair. Ensuite, il y a quand même une espèce de microclimat à Marseille. Cette ville qui a été abandonnée par l'État depuis fort longtemps, l'espace de 18 mois, on a un gouvernement et un Premier ministre qui, quand même, ont fait un certain nombre de choses pour la ville qui portent beaucoup d'espoir pour l'avenir. La création de la métropole. Et je tiens à souligner que dans un pays et dans une ville où il faut des années pour faire évoluer les choses, le premier discussion sur la métropole ont eu lieu le 24 juillet 2012 et elle a été votée le 17 juillet 2013 à l'Assemblée nationale. Ça va tout changer pour Marseille. On devrait avoir ce système de depuis 1966. Bon, on ne l'a pas, et maintenant, on va l'avoir. L'interministériel, qui s'est conclu par un investissement majeur dans les transports, la gare Saint-Charles, avec la possibilité pour cette gare de devenir un lieu de stockage pour les TER. Vous savez, si on n'a pas de TER entre Aix et Marseille, ce n'est pas simplement parce qu'il faut renforcer 5 km de voie et les doubler. C'est aussi parce qu'il n'y a pas la possibilité de stocker des trains pour faire un train toutes les 10 minutes. Eh bien, quand nous aurons cette nouvelle gare, 2,5 milliards d'investissements, nous pourrons le faire.
Pas pour tout de suite, c'est un investissement premier.
Mais vous croyez, vous, que les investissements sont des investissements immédiats ? Personne n'a de baguette magique, mais je le dis aux Marseillais aussi, quand la gare Saint-Charles sera terminée, la nouvelle gare Saint-Charles sera terminée, l'accès se fera par les allées Léon Gambetta, et on va changer la totalité du centre-ville grâce à cela, en tout cas toute cette partie de la Canebière.
D'accord. premier grand point dont on veut parler et dans lequel on peut faire entrer pas mal de choses, c'est cette fracture nord-sud qui est souvent sur la table hein, de ce scrutin pendant cette période électorale. Vous parliez du bilan. Est-ce que c'est... Là, vous renvoyez un peu la balle.
Je renvoie la balle à personne.
Jean-Claude Gonnet dit que la fracture, elle existait avant moi. Moi, je ne crois pas avoir participé
à cela. Je ne crois pas avoir dit... j'ai écrit un livre, d'ailleurs, vous l'avez dû le lire, dans lequel j'explique comment sont nés les quartiers nord. Comment les quartiers nord ont été créés à partir du fait qu'il fallait loger 150 000 rapatriés entre 1962 et 1965. Et donc, je ne vais pas dire que c'est la responsabilité de Jean-Claude Gaudin de X ou d'Y, même si Jean-Claude Gaudin, à l'époque, était dans la majorité de Gaston Defferre et a approuvé ces constructions qui, pour la plupart d'ailleurs, ont été le fait de permis de construire donnés par le préfet, par l'État, dans le cadre de la loi qui a suivi les accords d'Évian. Donc, voilà, moi je n'ai pas à dire, c'est Jean-Claude Gaudin. Il y a un problème dans les quartiers nord depuis très longtemps, c'est qu'il y a eu une désindustrialisation. On a mis beaucoup de gens de plus en plus pauvres. Comme les gens de pauvres, bien, très souvent, ils sont les derniers arrivés dans l'immigration en Marseille. On a aussi ethnicisé un certain nombre d'endroits, créé des ghettos. J'étais à Calisté avec Samiagali la semaine dernière, où on voit que dans l'école de Calisté, on n'a que des petits Comorés, ce qui est tout à fait anormal.
Qu'est-ce qu'un maire peut faire, Patrick Mélenchon ?
Bien, ça, je vais vous le dire immédiatement. Je vous le dis immédiatement. Il y a une proposition très précise pour l'école de Calisté. Comme pour l'école de Félix Piat, d'ailleurs, parce qu'elles sont dans la même situation. C'est qu'on peut faire une carte scolaire différente. On n'est pas obligé d'envoyer tous les enfants de Calisté à l'école au pied de leur tour. On peut les dispatcher dans des écoles à Saint-Antoine, à Septembre, en tout cas à quelques kilomètres de chez eux. Et puis pour Félix Piat, là je connais encore mieux, c'est ma circonscription. Là encore, nous avons une école au corps d'une cité ghettoisée. Mais au lieu de faire une carte scolaire comme une patate, c'est-à-dire que tout le monde, quand il habite autour de cette école, va à cette école, on peut faire des rayons. On peut estimer que tel bâtiment va aller à tel endroit, tel autre bâtiment à tel endroit, tel autre bâtiment à tel endroit, et c'est comme ça qu'on va déghettoiser l'école.
Ça crée également d'autres problématiques, ça crée
des problématiques qu'il faut assumer. Il faut les assumer, et je peux vous dire une chose. J'ai beaucoup parlé avec les parents de Bonneveine, de l'école de Bonneveine, l'école Freinet de Bonneveine. Et vous savez ce qu'ils me disent, les parents de Bonneveine ? Ils me disent, M. Mélenchon, si on avait dans notre école quelques petits Comoriens, quelques Maghrébins, voilà, ça serait bien, parce que nos enfants, ils vivraient dans la réalité de Marseille. Ils ne seraient pas toujours entre eux, et puis un jour, ils sortaient et disaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais vous voyez, des parents ont cette réaction dans les quartiers sud. Eh bien, on travaillera sur ces questions. L'école, c'est un des objectifs et la carte scolaire, elle doit être gérée par le maire.
Alors justement, pour prolonger sur ce registre-là, donc on est vraiment sur une compétence du maire, hein, l'école primaire. Alors, il y a cette réforme des rythmes scolaires.
Attention, on n'est pas sur la compétence totale du maire.
Pas totale, évidemment, il s'agit d'appliquer les
règles nationales. C'est ce qu'a voulu faire Jean-Claude Gaudin hier, vous le savez d'ailleurs. Vous savez ce qu'a fait Jean-Claude Gaudin ? Il a déposé un projet de loi, une proposition de loi de l'UMP au Sénat, où il a expliqué que les heures de cours devaient être décidées par les municipalités. Grosso modo, il était en train de liquider l'éducation nationale. Et alors, c'est une chose extraordinaire, j'ai eu Vincent Payon au téléphone, il n'y a pas plus d'une heure avant de venir chez vous, qui m'a expliqué ce qui s'était passé la nuit dernière. Jean-Claude Gaudin, qui a déposé ce projet de loi, il n'est même pas venu le défendre. D'accord. Il n'est même pas venu à l'Assemblée nationale.
Les rythmes scolaires, cette réforme qui est pour la rentrée, pour le nouveau maire, là, il y a deux visions vraiment très différentes. Avec d'un côté un maire qui dit que ça va coûter trop cher, c'est là. 20 millions d'euros. Marseille n'a pas les moyens de se payer ça. Et vous, vous dites que c'est une chance, il faut la faire cette réforme. Et
d'abord, veuillez m'excuser, mais vous faites une confusion. Vous confondez deux choses. Et c'est assez courant. Mm-hmm. Si vous me permettez, je vais essayer de m'expliquer pour que tout le monde comprenne. Vous confondez la réforme des rythmes scolaires, qui est une réforme d'État qui s'applique sans discussion dans tout le pays. Et
mais les maires auront en charge la modalité d'application.
Mais voilà, mais vous ne me laissez pas terminer. Pas du tout. Les maires auront la responsabilité de rien du tout. Ils auront la responsabilité d'ouvrir les écoles à l'heure où on leur dit de les ouvrir. La deuxième chose...
L'animation des temps scolaires.
Mais voilà. Ah oui. Et ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est une deuxième réforme qui est, là, non obligatoire. Hein, il y en a une qui est totalement obligatoire, mm-hmm. et l'autre qui est non obligatoire, dans laquelle l'idée de ce gouvernement, c'est de faire bénéficier nos enfants de culture, de sport, hors du temps où ils sont devant un instituteur. Et c'est ça que Jean-Claude Gaudin ne veut pas mettre en œuvre, parce que la réforme des rythmes scolaires, il est obligé de le faire, il l'a dit d'ailleurs.
Au motif du coup,
il a dit. Du coup, alors, au motif du coup, alors là on a le gaudinisme dans toute sa splendeur. Là, on ne discute pas. Quand il s'agit de mettre 505 millions sur le stade, tout passe en 5 minutes au conseil municipal. Mais là, on est en train de nous expliquer que ça va valoir 20 millions d'euros. La réalité n'est pas là. Le nombre, le prix moyen en France de cette affaire-là, c'est 180 euros. Sur les 180 euros, depuis 2 ans, l'État, la CAF, apporte 140 euros. Donc, reste 40 euros. Et nous avons 71 000 enfants. Mais par hypothèse, pas les 71 000 enfants ne vont pas le faire, puisque c'est de la liberté des parents. On peut penser qu'il y a des jeunes qui vont préférer prendre leurs enfants à 16h30. Bon, disons la moitié. C'est à peu près ce qui se passe en France. Mais nous sommes plutôt dans des sommes autour de 2 millions d'euros que de 20 millions d'euros. Si la ville de Marseille n'est pas capable de trouver 2 millions d'euros pour ses écoles, alors qu'elle donne 500 000 euros de subvention au Cercle des nageurs de Marseille, qu'elle dilapide dans des services de communication les plus grands du pays, 110 employés dans le service de communication de la ville de Marseille, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, c'est parce que Jean-Claude Gaudin a décidé de faire autre chose.
Alors vous avez évoqué le surnombre d'agents du service de communication, ça veut dire que vous avez l'ambition d'avoir une nouvelle gouvernance pour cette ville ?
Oui, vous le savez, vous avez participé à la conférence de presse que j'ai faite hier là-dessus. Nous allons travailler pour qu'on soit dans des normes de modestie. Je comprends bien qu'il faut certains appareils pour la ville de Marseille. Je comprends bien que le maire de Marseille ne peut pas se promener en trottinette. Mais enfin, on peut quand même, on n'est pas obligé d'avoir une C6, on peut avoir une C4, on n'est pas obligé d'avoir 29 adjoints, une vingtaine devrait suffire. On n'est pas obligé que tous les adjoints aient un chauffeur, une voiture. On peut avoir un pool, on prend son téléphone, on appelle, on vient vous chercher, on vous ramène. Quand vous avez une mission qui est liée à l'activité municipale, on peut aussi avoir une carte de transport en commun. Enfin voilà, il faut que les élus reviennent au niveau des citoyens. C'est un des objectifs que j'ai, mais pas pour ennuyer les élus ou simplement faire des économies, pour aussi montrer aux citoyens que la politique, c'est quelque chose d'utile.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi avec vous, Patrick Menucci, candidat à la ville de Marseille. Michel Guéraud.
Vous utilisez des termes et des mots très forts. Vous dites qu'il faut détruire le système clientéliste et obscur mis en place depuis 19 ans, qu'il faut mettre fin à la co-gestion.
Ouais.
Vous pensez au syndicat Force Ouvrière ?
Je ne pense pas au syndicat Entre Force autres. Ouvrière. Je pense à la direction du syndicat des territoriaux Force Ouvrière de la ville de Marseille et de la communauté urbaine. Non, mais je le dis parce que c'est important.
Ça fait moins de monde à fâcher.
Non, mais j'ai pas à fâcher parce que, vous savez, il y a énormément de syndiqués Force Ouvrière qui ont voté pour moi aux primaires. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec moi, y compris dans le personnel de la ville de Marseille, y compris des syndiqués Force Ouvrière, parce qu'ils en ont ras-le-bol du système, parce que c'est un système qui fait une pression sur leur vie et ils ont envie de se libérer de cette pression. Moi, je leur permets de le faire.
En même temps, ils viennent de donner une carte de membre d'honneur au maire sortant.
Oui, mais là, on est quand même... On va penser que vous me posez des questions pour me faire plaisir. On est quand même dans l'archétype de ce que peut être la méconnaissance d'une part et de l'autre, c'est-à-dire de la part de Ruet et de la part de Gaudin, de ce qu'est le syndicalisme et de son utilité dans le pays. À la différence de Gaudin, moi, je connais le mouvement ouvrier. Je sais ce que c'est un syndicat, je sais ce que c'est la charte d'Amiens, je sais l'attachement notamment du syndicat Force Ouvrière à son indépendance. Et quand je vois qu'on donne une carte de membre de Force Ouvrière à Jean-Claude Gaudin, je me dis qu'en échange, on a dû donner une carte de membre de l'UMP à celui qui a donné la carte. Enfin, on est dans une situation totalement ridicule. Le maire et le patron... Le syndicat n'est pas là pour gérer, le syndicat est là pour défendre les intérêts matériels et moraux des employés communaux. Alors, ce n'est pas la même chose.
Vous connaissez aussi l'historique de cette histoire-là, qui remonte effectivement à Defer.
Mais vous vous trompez. En disant cela une fois de plus, vous répétez ce qu'on dit dans cette ville, mais moi je suis précis, et l'histoire de Marseille, je la connais. Gaston Defer, ce n'est pas beaucoup plus prestigieux ce qu'il a fait. Il se servait du syndicat Force Ouvrière, un peu comme un syndicat maison. Mais c'était lui qui dirigeait. C'était pas le syndicat Force Ouvrière qui lui donnait des ordres. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à la ville de Marseille, les conséquences de cette cogestion, vous savez ce que c'est ? C'est qu'il n'y a plus de gardien de parc. Il n'y a plus d'autorité. On ne trouve plus de fonctionnaires municipaux pour faire marcher la SPA. Ça a quoi comme conséquence ?
Eugène Caselli, qui aujourd'hui dirige MPM, avait aussi une volonté de réformer un certain nombre de
choses. Il était minoritaire.
On n'a pas senti un changement
radical
dans la façon de faire fonctionner l'institution avec ce syndicat.
Eugène Caselli est très clair. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'à lui, on ne lui a pas donné la carte de membre d'honneur. Ok ? Parce qu'il a senti...
Enfin, Monsieur Ruet, nous, on l'a interviewé, il a qualifié Monsieur Caselli d'excellent patron, qu'il avait les mêmes rapports avec lui qu'avec Jean-Claude Godin.
Mais malgré tout, il ne lui a pas donné la carte d'honneur.
Et qu'ils étaient régulièrement assaisonnés, si je puis dire, de primes diverses et variées.
Attendez, le problème n'est pas de savoir s'il y a des
primes. Si, le problème est là.
Non, le problème n'est pas là. Le problème est que nous sommes dans une nouvelle période qui s'ouvre. Dans cette nouvelle période qui s'ouvre, j'ai gagné l'élection primaire sur la base d'un programme. Ce programme, je l'ai fait partager à ceux qui sont sur ma liste. Eugène Caselli s'est engagé avec moi à un certain nombre de choses.
Concrètement, Patrick,
sur la fin du fini parti, par exemple.
Le fini parti, c'est terminé.
Oui, mais bien sûr. Eugène Caselli l'a dit hier dans sa conférence de presse. C'est pas, on n'est pas là en train de s'amuser.
Il n'y aura pas de report, mais
etc. Il y aura une concertation. On n'est pas.
On sait comment ça se termine, les concertations à Marseille, Patrick Menucci. Ça dure très longtemps.
Ça, c'est vous qui le dites, mais ça dure très longtemps parce que les gens ont envie de les faire durer. Si je suis le patron, je fixerai, au cours d'une conférence sociale, je fixerai les étapes. Les choses sont simples. Nous avons la volonté d'en mettre fin au fini parti. Ça concerne 400 personnes.
Donc vous mettrez la pression à Eugène Caselli, parce que ça dépend de Eugène Caselli, en lui disant concertation,
pourquoi vous avez cette conception,
mais il faut savoir également terminer une concertation, c'est ça ?
Pourquoi vous avez cette conception de la politique ? Pourquoi voulez-vous que je mette la pression à Eugène Caselli ? Je voudrais bien me faire comprendre. Je vais devant les Marseillais pour une élection municipale qui est aussi une élection communautaire. Je rappelle que sur le bulletin de vote, il y aura les deux listes présentes. Et donc pour l'instant, c'est moi qui dirige les deux. Dans le processus politique et dans le processus électoral. Je dis aux Marseillais, voilà mon programme. Par exemple, je terminerai avec le fini parti. J'irai, une fois que les Marseillais m'auront donné, m'auront élu, c'est qu'ils auront, j'aurai la légitimité de mettre en place le programme politique que j'ai annoncé. Ce programme politique sera mis en place par la personnalité qui dirigera MPM. Je pense que Eugène Caselli est le mieux placé pour continuer à diriger MPM. Mais il le fera sur la base du programme politique sur lequel il aura été élu dans le deuxième secteur de Marseille sur mes listes.
Michel. Alors, toujours à la rubrique gouvernance, vous dites « Mon équipe municipale sera à l'image de Marseille, jeune, expérimentée, paritaire et diverse. Un nombre d'adjoints resserré. » D'accord ? Mais pour l'instant, la synthèse qui est sortie de la primaire qu'on a connue et que vous avez gagnée, et le casting que vous proposez aux électeurs marseillais derrière vous, hein, les têtes de liste, on retrouve finalement des gens qui sont là depuis...
Non mais je m'excuse, mais vous, quand vous faites une émission de radio, vous prenez des gens qui ne savent pas parler, vous prenez des gens qui bégayent, vous prenez des gens qui ne savent pas lire. La politique, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, sur les listes, on fait des ouvertures, on permet à des gens de venir, mais pour diriger, pour préparer les programmes, il n'est pas anormal qu'on s'appuie sur les structures d'un parti qui est un parti important. En même temps...
De qui
parlez-vous ?
Marie-Arlette Carlotti, par exemple, Samia Ghali, par exemple, Christophe Mas, par exemple, était déjà présent depuis 1995.
Vous avez l'idée, vous savez ce que c'est un parti politique ? Un parti politique, ce sont des gens qui travaillent ensemble, qui ont des responsabilités, qui construisent des choses, et ce sont des gens qui ont préparé leur vie, qui travaillent, qui construisent les choses. Ma liste, elle est composée, comme vous venez de le dire, de gens qui ont de l'expérience. Il y aura aussi beaucoup de renouvellement. Pourquoi vous ne parlez jamais du renouvellement ? Pourquoi vous ne dites pas, tiens, c'est formidable qu'un homme comme Ragaï Sobol, qui est une sommité en matière de médecine prédictive à Marseille, qui est le numéro 2 de l'IPC, qui est quelqu'un qui sauve des vies tous les jours, qui est décidé de s'engager avec moi, qui est troisième sur la liste de Christophe Maas. Pourquoi vous ne dites pas qu'une personnalité comme Annie Lévy, par exemple,
c'est la seule nouveauté.
Qui est une généticienne, mais non, je viens de dire Ragaille,
qui
est une,
liste,
mais vous verrez, ce n'est pas terminé, qui est une généticienne de renommée internationale. Vous avez vu qu'Axel Kahn est venu la soutenir il y a quelques jours. Pourquoi vous ne dites pas qu'une femme comme Madame Ben Salama dans les quartiers nord, qui est connue pour son engagement dans les cités, auprès des jeunes, qui leur parle directement, qui est directement à leur contact. Alors effectivement, elle ne passe pas tous les jours à TF1. Et pourquoi vous ne dites pas que cette personne sur notre liste, oui, c'est
Patrick
le renouvellement.
Mouchi, est-ce que vous êtes en train de nous dire que malgré le fait que vous ayez dû faire la synthèse avec les grands barons, vous avez réussi à fédérer les grands barons
si je ne l'avais pas fait, que me diriez-vous aujourd'hui?
Exactement, vous l'avez fait, maintenant vous nous dites.
Regardez,
que vous allez réussir sur cette base-là à constituer une équipe municipale qui ne sera pas uniquement à l'image
mais
de cette fédération.
Mais évidemment,
qui ressemble quand même à un puzzle un petit peu reconstitué.
Mais parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez que, vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Parce qu'il y a d'autres noms que je pourrais vous citer. On a M. Arnaudot qui a décidé. Qui c'est, M. Arnaudot? C'est le président de l'association Cap au Nord. Il est le président des entreprises des zones franches. Il vient de décider de figurer, après une proposition que lui a fait Samy Agali, sur la liste du 15e et 16e arrondissement, personne ne dit rien.
Mais vous savez,
on ne dit pas.
Patrick Pinucci, vous savez bien que ces gens-là ont une visibilité médiatique beaucoup moins importante.
Mais visibilité médiatique, parce que vous ne voulez pas
critique,
la leur donner.
Non, mais la critique qu'on est en train de faire, c'est que finalement, vous avez repris.
Mais vous faites toujours la même critique.
Vous avez c'est parce qu'il n'y a pas de changement. Vous avez repris les mêmes postes.
Ce n'est pas vrai. Et moi, je m'excuse, ça fait plusieurs années que je viens à la tchatche et je vous vois toujours tous les deux. Donc il faut maintenant arrêter. Je veux dire, pourquoi.
Il n'y a pas d'élection.
Pourquoi toujours. Mais oui, mais vous vous auto-organisez. Alors pourquoi toujours considérer, et je vois que le stagiaire, il est assis dans un coin et il n'a pas la parole, mais vos auditeurs ne le voient pas, mais moi je le vois. Alors je vais vous dire, dans une élection, il y a des personnalités d'expérience, vous les avez citées, elles ont l'air de ne pas vous convenir, mais très honnêtement, une personne comme Marie-Arlette Carlotti, mais vous savez, Marie-Arlette Carlotti, elle n'a jamais été élue au conseil municipal de Marseille, jamais. Et elle a accepté, je l'en remercie, parce que c'était pas évident de diriger la liste, parce que je lui fais confiance, et elle a une image dans la population de probité, de renouveau, et c'est très bien. Et vous allez maintenant, j'espère que vous passerez autant de temps à analyser la structure de ma liste quand elles seront connues, et là vous verrez un tas de personnalités. Vous allez avoir un garçon, non mais permettez-moi,
allez-y.
Vous allez avoir un garçon comme Grasby du comité du comité des quartiers populaires qui va être avec nous. Vous allez avoir et qui est en train de me donner son accord pour être avec nous. Vous allez avoir.
On a parlé de Pape Diouf qui hésitait entre vous, le sursaut, le front de gauche.
Pape Diouf, c'est une autre affaire. Moi, j'aimerais beaucoup que Pape Diouf vienne avec nous, mais je respecte ses délais et son temps.
Il donnera sa réponse à la fin du mois. Vous l'espérez ou pas?
Écoutez, moi, j'ai pas de délai. On va voir les choses. Vous allez avoir un des plus importants commerçants du centre-ville de Marseille, M. Éric Scotto. Voilà pourquoi toujours considérer qu'il n'y a que ce que vous connaissez qui existe. Il y a 303 candidats, et notamment dans ceux qui vont être élus, croyez-moi, il y a énormément de personnalités et de personnes qui ne sont pas des politiciens professionnels.
Vous êtes formel, le temps de la primaire est terminé. Imaginez nos auditeurs, ils sont encore au temps. Il y a eu ce temps-là, ils ont suivi ça, ils y ont même participé assez nombreux à ce scrutin-là. Ils ont vu des gens qui étaient quand même.
Je les remercie beaucoup pour ceux qui ont voté pour moi, bien sûr.
Ils se reconnaîtront, et les autres. Et vous leur dites, c'est bon, ça y est, Carlotti et Galli vont se parler. Je vais faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles travaillent ensemble pour
Hollande,
Marseille
Hollande,
demain.
Martine Aubry, Manuel Valls, qu'est-ce que j'entendrai, M. Guéraud?
Ça vous a pas surpris que Martine Aubry ne fait pas partie du gouvernement.
Mais très bien, mais elle le soutient. Elle le soutient.
En silence.
Oui, écoutez, elle le soutient, et elle est un soutien, et un jour, sans doute, reviendra-t-elle au gouvernement, en tout cas, je le souhaite.
On peut faire avancer ensemble de front des personnalités mais aussi affirmées, avec des positions aussi.
Mais vous avez
tranchées.
Décidé donc.
Vous décidez donc.
De toute façon, pour vous, il y a un système qui est simple. Où on a affaire à un homme comme Jean-Claude Gaudin, qui est tout seul, qui tue tout le monde autour de lui, qui liquide les gens, après il leur donne un hochet, comme on voit Muselier qui va partir à l'Europe, etc. Alors là, à lui, on lui dit rien, Mais quelle est la liste de Jean-Claude Godet aujourd'hui? Quelqu'un la connaît? Qu'est-ce que c'est le renouveau? C'est M. Morin qui attend, tapis dans l'ombre, la défaillance
ici.
Du maître pour prendre sa place? Mme Karanek qui a foiré qui a fait disparaître tous les gardiens de parc à Marseille? Mme Vassal qui nous a construit un marché de la plaine qui est un cloaque? C'est ça le renouveau de l'équipe Godet? Mais là, il n'y a jamais rien.
Nous sommes. La diversité, Patrick Lucci.
Attendez deux secondes. Nous sommes dans l'idée que les primaires, ça permet de se différencier, mais que le rassemblement, c'est ce qu'attendent les Marseillais. Et d'ailleurs, je constate en regardant les sondages que ça leur convient.
La diversité, Patrick Mellucci, c'est vous aurez des listes qui seront à l'image de la ville?
On a déjà des listes à l'image de la ville. Déjà les têtes de liste, vous avez beaucoup de personnes qui représentent les origines variées et diverses de cette ville. Vous aurez bien sûr sur les listes des personnalités qui seront issues d'origines diverses. Mais vous savez, moi, ma conception, elle est quand même très simple. Hein. Pour moi, il y a une communauté à Marseille. C'est la communauté des Marseillais. Cette communauté, elle est formée avec des influences, avec des religions. Mais je n'en tiens pas plus compte que ça. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les individus. Je suis un laïc absolu de ce point de vue. Après, comme je connais Marseille, comme je connais les gens, ceux qui veulent nous rejoindre et qui ont montré qu'ils sont de notre courant politique, qui ont la capacité de le faire, qui savent prendre les responsabilités en main, seront sur notre liste. Je vois par exemple qu'il y a un collectif comorien qui dit il faut des comoriens, mais quand je vais annoncer le nom des personnalités d'origine comorienne qu'il y a sur ma liste, il y aura certainement des surprises, tant il y a des personnalités élevées, mais en même temps, personne ne m'imposera des gens venus de nulle part. Ce sont des militants politiques ou des militants associatifs, des gens qui travaillent avec nous, ils se retrouvent avec nous. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont comoréens ou ce n'est pas parce qu'ils sont d'origine, d'une autre origine, c'est parce qu'ils ont la capacité de le faire.
Question directe, Patrick Mellucci, ce sera des gens qui vont venir, excusez-moi le terme, assaisonner la liste ou, ou est-ce qu'ils seront à des places éligibles?
Écoutez, je ne veux pas révéler le nom, mais il y a un garçon très connu à Marseille, notamment dans ce quartier-ci, dans le 3e arrondissement, qui sera immédiatement derrière Eugène Caselli sur la liste. Et vous aurez une personnalité d'origine algérienne, qui sera une femme, qui sera deuxième de la liste d'Eugène Caselli. Voilà, je ne crois pas que c'est assaisonné, c'est constitué des listes. Ou moi-même, dans le centre-ville de Marseille, mon ami Miloud Boilem, qui sera en troisième position sur ma liste.
On est allé vite sur la fracture nord-sud et sur vos solutions pour recolmater la ville et lui redonner une unité. Les 50 000 emplois privés que vous annoncez sur deux mandatures.
Hein. Le mot annoncé n'est pas le bon mot.
Vous souhaitez
créer les conditions de leur création.
C'est prudent comme formulation.
Non, c'est pas prudent. C'est exactement ce que font toutes les municipalités.
En même temps, le chiffre est précis, lui, c'est 50 000.
Le chiffre est précis, vous avez vu qu'il est décliné
sur deux mandatures.
Sur deux mandatures, mais il est décliné en fonction de quatre économies. Tourisme, économie résidentielle, économie de la connaissance, industrie. Donc, pour chaque activité, nous disons ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'abord, nous allons faire que le maire de Marseille montre son intérêt pour cela. Pour ça, nous allons faire un conseil autour du maire, ça sera gratuit, avec les grands patrons, pour travailler ensemble comment on fait pour développer cette ville. Ensuite, nous allons créer une agence.
Toujours aux premières critiques de Jean-Claude Godin là-dessus, sur ce genre d'annonce, il dit Patrick Mellucci, le candidat du gouvernement, va renforcer la bureaucratie.
Alors, si je fais une réunion avec M. Ferraud, avec M. Reverchon ou avec M. Saadé, et que je les vois une fois tous les 15 jours pour faire le point sur le développement économique de la ville, je ne savais pas que j'ai renforcé la démocratie, mais c'est sans doute la conception. Vous voyez bien que Jean-Claude Godin n'a rien à dire. Parce que la vérité, c'est que Jean-Claude Godin ne rencontre jamais ces gens. Hein. Il ne parle jamais avec eux. Peut-être il les voit dans un cocktail, il leur dit un mot, mais il ne parle jamais avec eux. Donc il faut cette vérité. Deuxièmement, nous allons créer une agence marketing territoriale, comme c'est le cas à Lyon, par exemple, pour développer l'attractivité de la ville, mettre dans des bureaux, alors là, peut-être qu'il peut parler d'administration, hein, des ingénieurs, des gens qui regardent les évolutions économiques, qui savent les saisir, qui peuvent aller chercher des entreprises, enfin bref, qui travaillent. Ensuite, nous allons faire une foncière, de façon à maîtriser des terrains, pour créer des zones d'entreprise. Je rappelle que Jean-Claude Gaudet a créé 7 hectares de zones d'entreprise en 19 ans, alors que l'objectif que nous fixons est de 100 hectares. Entre parenthèses, cette foncière ne servira pas qu'aux entreprises, elle permettra aussi, de, en refaisant le plus, de travailler sur les terrains nécessaires à l'habitat social. Et aussi, c'est une nouveauté à Marseille, puisque vous avez vu, peut-être vous l'avez noté, que je veux créer 80 hectares de terres agricoles dans notre ville.
Là-dessus, la structure que vous allez créer servira à faire pression sur RFF, qui lâche très difficilement.
Ça servira à faire pression sur tout le monde. Ça servira à faire pression sur tous les propriétaires. On utilisera les moyens que nous donne la loi et qui sont très grands. Notamment le fait de pouvoir expulser dans l'intérêt général si des gens ne veulent pas céder leur terrain. On a d'autres mesures, par exemple, qui auraient été bien utiles dans le quartier de la Belle de Mai où nous sommes. Par exemple, la sanctuarisation des lieux industriels. Je ne permettrait plus la construction d'opérations de promotion immobilière sur des entrepôts ou des usines où travaillent des gens. Et il faudra me montrer, avant d'avoir l'autorisation, qu'on a déplacé l'activité économique ailleurs dans la ville. Voilà, et qu'on a créé les conditions pour que l'activité continue, qu'elle ne parte pas à Vitrolles ou qu'elle ne disparaisse pas. Voilà des mesures qui sont des mesures municipales qui permettront d'avancer dans ce domaine qui, il faut le reconnaître, pour l'instant, nous sommes au point zéro.
La culture aussi, vous mettez la culture, l'économie de la culture en avant. Est-ce que vous tirez, vous aussi, un bilan satisfaisant de l'année 2013 qui vient de se terminer? Le slogan de campagne de Gaudin, c'est « Vous avez aimé 2013, ouais, vous adorerez 2014 ». C'est la bande-annonce un petit peu de ce qui va suivre. En tout cas, c'est fait comme
ça. On en a beaucoup parlé ensemble et dans d'autres circonstances. Vous connaissez ma position. Je suis satisfait qu'on ait eu Marseille-Provence 2013. Je suis aussi satisfait du OFF, par ailleurs. Je suis satisfait de toutes les initiatives qui ont eu lieu. Je suis satisfait des bâtiments qui vont nous rester. Et en même temps, je sais qu'il n'y a pas de politique municipale de la culture. Et que tout ça a été un moment pas formidable pour un certain nombre de gens, mais nous sommes à la friche de mai, à la friche de la Belle de Mai. J'ai discuté il y a un mois avec Arnaudet, donc je suis venu travailler un peu pour le programme et voir comment on pouvait continuer. C'était formidable la friche en 2013, hein, les terrasses, les soirées, etc. Mais la vérité, c'est qu'Arnaudet m'a dit, je dis ce qu'il m'a dit, j'ai eu des subventions pour 4 millions d'euros. Avec ces 4 millions d'euros, j'ai fait ce que vous avez vu. Cette année, j'ai zéro. Voilà. Et 2013, c'est 2013. Maintenant, on est en 2014. Alors après, lui, le Gaudin, il peut se servir de ça comme slogan. Il ne faut pas qu'il oublie quand même que j'ai eu un jour une remarque absolument frappée du coin du bon sens. J'étais dans le 11e arrondissement, au fin fond à Saint-Marcel, et j'avais une réunion avec les amis qui constituent ma liste là-bas, et les militants, et les gens qui sont avec nous, avec Christophe Mas. Et il y a une personne qui, on parlait de 2013, c'est une question qui revient toujours, et une personne qui a dit, n'oublie jamais que nous, on n'a rien vu. Alors, disait la personne qui habitait Saint-Marcel.
Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous y pourrez à cette situation, à cette difficile succession d'une année 2013?
Ça va être terrifiant.
Donc vous annoncez du sang et des larmes au secteur culturel à Marseille.
Je rappelle juste aux auditeurs, Patrick Menucci, la ville de Marseille, c'est 1,8 milliard de dettes.
8,5 milliards. Vous en oubliez 50.
2013 euros par habitant, c'est énorme. La marge de manœuvre est quand même très, 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 très faible.
Oui, c'est
donc
pour
la fête, est bel et bien finie, c'est ça que vous dites?
C'est pour ça que la fête, elle a eu lieu sur 3 km2. Hein. Voilà. Attention, la fête, elle n'a pas eu lieu dans toute la ville. Hein. Il faut qu'on revienne. À Saint-Marcel, il ne s'est rien passé. À Saint-Antoine, pas grand-chose. Et à la Busserine non plus. Hein. Donc voilà. La vérité, c'est que pourquoi je pars d'un concept de développement économique? Parce qu'on ne pourra rien faire dans cette ville si on ne recrée pas de la richesse, si on ne crée pas des emplois et si on n'amène pas à partager cette richesse avec les Marseillais. Rien. Parce que la pression fiscale sur les ménages, elle est déjà à un niveau où les gens ont du mal à la supporter. Donc on ne peut pas accroître la pression fiscale sur les ménages. C'est pourquoi il faut maintenant avoir des activités pour que la pression fiscale se transfère sur les entreprises.
Alors, en gros, les investissements, c'est terminé? On travaille plus sur la pression fiscale et on arrête d'investir?
Mais pas du tout. Pourquoi les investissements, c'est terminé? Il y a une capacité d'investissement de la ville de Marseille qui est de 200 millions par an. je parle de la ville, hein, pas de la communauté, je veux la porter à 250. Parallèlement, je fais des économies dans la masse salariale du personnel. Il y aura des économies de fait. Je vous ai parlé des économies que feront les élus. Il y aura aussi des économies de fait dans la gestion municipale. Nous transférerons les cantonniers au mairie de secteur. La gestion des écoles sera donnée au mairie de secteur. Il y aura des régies. On ne fera plus appel aux entreprises systématiquement.
En même temps, la Chambre régionale des comptes a noté que la ville investissait au-delà de ses moyens. Donc
c'est
vous,
probable.
Vous continuez encore c'est avec probable. 200 millions de plus ?
Je ferai les choses dans le cadre de la légalité, mais ce que je ferai surtout, c'est que je chercherai les moyens ailleurs de apporter l'argent à Marseille. C'est où ailleurs ? Bien, d'abord dans le développement économique, et puis je ferai en sorte qu'avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la région, le travail se fasse un peu différemment, que ce soit sur la base de contrats et pas du bon vouloir du président un jour ou un autre, et qu'on ait une clarification de ces éléments-là.
Donc vous allez reprendre langue avec Jean-Noël Guérini ?
Non, je vais préparer les élections cantonales de 2015. Pardon.
On va revenir au CG par un autre biais. Vous misez aussi sur la métropole comme levier d'action.
Et j'ai bien raison.
Et pourtant, nombreux sont les acteurs, dont le Conseil général des Bouches-du-Rhône et les maires de ce département. Et puis finalement, le maire de Marseille qui aujourd'hui dit, oui, d'accord, la métropole, mais qui n'a pas été non plus extrêmement enthousiaste sur...
C'est le Sénat. Hein.
Oui, donc vous dites, oui, aux Marseillais, cette histoire-là est une chance et je vais m'appuyer là-dessus, mais ça va amener de l'argent, une dynamique.
Je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Parce que déjà, la loi de finances a inscrit 50 millions d'euros de plus pour le territoire métropolitain que ce qui était donné aux 6 EPCI. Ça, c'est un engagement qui a été pris le 17 juillet et qui a été tenu, alors que je vous rappelle que tout le monde disait « mais ça ne sera pas comme ça, etc. »
Les EPCI, c'est les agglos qui
entourent. C'est fait, absolument. Que l'augmentation du versement de transport des entreprises hors Marseille va nous amener 50 millions d'euros de plus. Donc déjà, on a 100 millions sur le territoire métropolitain qu'on n'avait pas. Avec ces 100 millions et un peu d'argent du Conseil général et de la région, on peut lever 2 milliards. Et moi, je souhaite que nous soyons, avec un emprunt de 2 milliards, rapidement en capacité d'investir 1 milliard 200 millions dans les transports marseillais et 800 millions à l'extérieur. C'est pour ça que je propose le métro jusqu'à Saint-Antoine et jusqu'à Saint-Loup. Voilà, par exemple, une mesure dont j'explique le financement.
Alors justement, le chef de l'État, lui, a voulu faire des économies en fusionnant certaines régions. Il a même eu cette phrase assez sibylline, c'est « les départements situés dans les grandes zones métropolitaines devront redéfinir leur avenir ».
Mais pourquoi vous trouvez que c'est si sibylline que ça ?
Qu'est-ce qu'il entend par là ?
Mais c'est très clair, il y a une loi qui est en préparation. Nous sommes en train de la discuter pour faire que dans les zones métropolitaines, métropolisées, c'est-à-dire il y en a quelques-unes en France, dont les trois quarts des Bouches-du-Rhône, en termes de territoire, et 9/10 en termes de population, le Conseil général et la métropole fusionnent. Mais je veux préciser une chose. Moi, je ne suis pas dans l'idée que la métropole doit absorber le Conseil général. Je suis dans l'idée qu'une fusion, elle se fera beaucoup au bénéfice du Conseil général. Pourquoi ? Parce que le Conseil général a les structures, il a les cadres, il a le personnel, il a des gens formés, il a les bâtiments, il a aussi la capacité d'emprunt que n'a pas aujourd'hui la métropole. Donc évidemment, le système d'élection ne sera plus celui des conseillers généraux, donc les choses changeront. Je ne parle pas des individus là, mais au fond, pourquoi on est toujours dans l'idée que le conseil général va disparaître au profit de la métropole ? On peut très bien avoir une métropole départementalisée où le conseil général garde ses prérogatives et où il acquiert celles de la métropole. C'est pour ça que quand vous me parlez des maires, etc., le système est très simple. Il faut en finir avec le clientélisme à tous les niveaux, y compris le clientélisme territorial. L'aide aux communes, c'est quelque chose qui doit se faire avec un trébuchet et une règle. Et vous verrez que quand on le fera comme ça, Marseille récupérera vite 80 ou 90 millions d'euros de plus.
Patrick Nucci, quand on supprime un échelon, on fait forcément des économies parce que ça rend aussi des services. Vous avez cité tout à l'heure la fonction du Conseil général. Et quand on voit l'exemple de ce qui s'est passé en Alsace, les électeurs ne suivent pas forcément cette logique d'économie.
Peut-être, mais je ne suis pas tout à fait persuadé qu'il faille faire des référendums pour fusionner la métropole et le département. Et même, il y en aurait-il.
Dites-moi, Patrick Menucci, votre gouvernance, elle va être au sabre ?
Pas du tout au sabre. J'ai une idée, moi, qui est très claire. Vous voyez, c'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts pour être clair en matière de programme. Je me prête à des interviews comme les vôtres pour que les gens comprennent ce que je veux. Je dis les choses et je les ferai. Et dans l'élection municipale, ceux qui vont voter pour moi, ils ne voteront pas que pour un individu. Ils voteront d'abord pour une équipe, mais ils voteront pour une orientation politique. Quand j'aurai la légitimité, j'appliquerai l'orientation politique.
En affichant comme ça une volonté de renverser un peu la table face à des organisations très installées, on parlait des territoriaux de Marseille, on parle d'une puissance comme le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Mais est-ce que vous avez remarqué, je ne l'ai pas attaqué, là, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Non, mais vous ne l'avez pas attaqué, mais vous annoncez plus ou moins sa dissolution, donc c'est quand même pas...
Vous avez quasiment écrit son épitaphe.
Donc,
c'est le président de la République.
Vous êtes malgré tout optimiste en votre capacité à fédérer, à emporter le morceau.
Ça fait longtemps que je travaille. Contrairement au maire de Marseille, je connais parfaitement mes dossiers. Et je connais les siens mieux que lui. Et je sais ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais il y a une chose à laquelle je crois, c'est à la politique, à la capacité d'entraîner un territoire, à la capacité que les Marseillais comprennent qu'ils ont un destin et qu'il faut qu'ils arrêtent de se plaindre des Parisiens ou des Lyonnais ou de je ne sais qui et qu'ils prennent leur destin en main. Nous ne nous en sortirons pas sans l'aide de l'État. Mais en même temps, nous ne nous en sortirons pas non plus si nous ne sommes pas capables de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Beaucoup d'opportunités se présentent et nous devons les saisir. Et moi, c'est ce que je veux faire avec les Marseillais.
En même temps, Patrick Mennucci, la défiance à l'égard de la vie politique atteint des sommets inégalés. Sentiment que la démocratie fonctionne mal, que les hommes politiques sont tous corrompus, je cite. C'est l'enquête annuelle intitulée « Fracture française » qu'a révélé Le Monde ces jours-ci. Avec une telle défiance, on peut continuer à faire la politique que l'on souhaite ?
Je pense qu'il faut faire en sorte de prendre un certain nombre de mesures pour rétablir la confiance. Quand je dis qu'il n'y aura plus une voiture, un chauffeur par adjoint, je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Ben, c'est pas, peut-être l'économie ne sera pas décisive, mais chacun comprend qu'être élu n'est pas être au-dessus de la population, c'est être au service de la population. Et voilà, je crois qu'il faut quelques actes qui donnent envie aux gens de travailler ensemble et de faire confiance à leurs élus.
Être élu n'est pas être au-dessus de la population, c'est ce que vous venez de dire, et on vous demande des nouvelles de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône qui a traversé quelques méandres judiciaires. Elle est toujours sous
tutelle... Judiciaire ?
Le premier secrétaire, pardon. Lui a eu des soucis judiciaires, il en a toujours.
Je ne crois pas que ce soit lié à ça, quoi.
Oui, alors... Aujourd'hui, elle est sous tutelle, quand même, cette fédération ?
Écoutez, moi, je ne suis pas là pour parler de la fédération, excusez-moi. Si vous voulez qu'on parle de Marseille, on en parle.
Non, mais la fédération, elle est toujours sous tutelle. Oui, elle le restera avant, après.
Elle est sous tutelle. L'accord, c'est qu'elle ne soit plus sous tutelle à partir du mois de septembre ou d'août 2014.
Voilà. Après les élections, donc ?
Oui, bien sûr.
Michel ?
Donc la campagne mène son cours. Évidemment, vous avez obtenu un débat avec Jean-Claude Gaudin entre les deux tours. C'est sur France 2, c'est ça ? Vous confirmez ?
Écoutez, non seulement je le confirme, il appartiendra plutôt à Pujadas et à France 2 de le confirmer, mais j'étais ce matin avec Jean-Claude Gaudin au ministère des Transports, où nous avons été reçus par M. Cuvillier sur la SNCM, et c'est Jean-Claude Gaudin lui-même qui m'a dit « j'ai accepté ce débat ». Alors je lui ai dit « c'est très très bien, c'est le 6 mars, me dit-on ». Je ne sais pas si c'est bon signe pour moi, mais c'est la première fois qu'il accepte.
Vous pensez que ça peut emporter l'adhésion ? Enfin, ça peut changer la façon de poser le débat ?
Moi, j'espère surtout que ça va être un débat où Jean-Claude Gaudin, généralement, quand il est face à moi, il est insultant. Donc j'espère qu'il saura se contrôler. Moi, en ce qui me concerne, il pourra dire ce qu'il veut. C'est sur les dossiers marseillais que je serai dans le débat.
Patrick Mennucci, on vous remercie. Et on vous dit aux auditeurs, au mois prochain. Bye.
La grande tchatche. Le ravi. Radio Grenouille.